Vivre FM
Podcast.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, la vie des associations est consacrée au CERTAM, le centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Et Fernando Pinto da Silva est avec nous parler du CERTAM et des dernières, j'allais dire, fréquentations internationales du dit CERTAM. Bonjour Fernando.
Bonjour Benjamin.
Hein, c'est bien ça, vous êtes allé à Bruxelles?
Absolument. On voulait aujourd'hui consacrer cette émission du CERTAM sur Vivre FM, comme chaque troisième mardi de chaque mois, aux activités internationales du CERTAM. Vous vous souvenez que la dernière fois, Benjamin, on avait parlé des activités courantes du CERTAM, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'activités à l'international. Et la participation la semaine dernière au salon du Braille-Tech chez nos amis belges de la Ligue Braille nous a semblé être la bonne occasion pour, d'une part, parler de ce salon qui est vraiment intéressant et qui est aux portes de Paris, pour ainsi dire, et d'autre part, évoquer plus largement nos activités à l'international.
Alors, quand vous parlez d'activités à l'international, ça veut dire que vous faites part aussi aux autres pays que vous visitez de votre savoir-faire ?
Ça va dépendre des circonstances. Dans certains cas, on va pouvoir établir des partenariats avec d'autres structures. On en parlera sans doute tout à l'heure, notamment pour essayer de mutualiser, d'échanger un certain nombre de savoir-faire, de compétences. Dans d'autres cas, ça va être essayer de travailler à des partenariats concernant le livre adapté, par exemple, puisque vous savez que le CERTAM a une activité dans ce domaine également. Donc là, ça va dépendre, je dirais, un petit peu des structures en présence et de ce qu'on peut bâtir ensemble.
Des possibilités offertes par les 10 salons que vous visitez.
Tout à fait.
Alors, vous étiez la semaine dernière à Bruxelles.
Oui, j'ai eu cette chance-là. C'est toujours un vrai plaisir que d'être accueilli par nos collègues de la Ligue Braille. Alors, la Ligue Braille, pour nos auditeurs, c'est une structure belge qui œuvre dans le secteur de la déficience visuelle, donc pour les non et pour les malvoyants.
C'est l'équivalent de la VH à peu près ou...
D'une certaine façon, oui, c'est toujours un petit peu difficile de parler d'équivalence de ci ou de ça, mais oui, c'est souvent ce que les gens disent. Après, je voudrais pas choquer d'autres organisations belges qui pourraient être à l'écoute, parce que il y a, comme en France, il y a plusieurs organisations en Belgique qui œuvrent dans ce secteur-là. Mais effectivement, en tout cas, la VH et la Ligue Braille travaillent de plus en plus ensemble. Et donc, chaque année, la Ligue Braille organise un salon qui s'appelle donc le Braille Tech, qui est un salon qui réunit, d'une part, les distributeurs de matériel en Belgique, donc matériel pour personnes aveugles ou malvoyantes, qui arrive d'ailleurs à faire venir les fabricants, en fait. Donc, ce qui est quand même intéressant aussi, puisque du coup, on a l'occasion de rencontrer ceux qui fabriquent le matériel, même s'ils ne sont pas nécessairement présents sur le marché belge. Et d'autre part, donc, au cours de ce salon, la Ligue Braille organise également des ateliers pratiques, des ateliers de sensibilisation, de découverte. Et dans ce cadre-là, nos camarades du service accompagnement de la Ligue Braille nous ont demandé d'être à leur côté pour faire des présentations sur les tablettes, les smartphones, quelle est l'accessibilité pour les non et les malvoyants selon les systèmes d'exploitation, Android, iOS. Et donc, c'est effectivement ce qu'on est allé faire la semaine dernière à leur côté.
Ça veut dire que ça n'était pas un salon qui était uniquement réservé aux professionnels, le grand public y était invité.
Absolument. Je crois savoir que Braille Tech 2014 a accueilli 1300 personnes, ce qui pour un salon exclusivement centré sur les aides techniques et la déficience visuelle me semble beaucoup. Sauf erreur de ma part, juste sur cette thématique, je ne crois pas qu'on ait des taux de fréquentation équivalents en France, par exemple.
Ça veut dire qu'on médiatise moins bien. Ça veut dire parce qu'on a, vous avez un vrai savoir-faire et vous le savez. Vous organisez, en tous les cas, les associations, les structures organisent de tels salons en France.
Pas à ma connaissance. Non. Je crois qu'il y a des salons, effectivement, tout handicap confondu. On connaît bien les salons autonomiques.
Par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de salon destiné à la déficience visuelle, à la malvision.
En tout cas, pas que je sache, mais après, peut-être qu'il y a une structure qui, quelque part en France, le fait.
Dans ce cas-là, il faut se faire connaître, absolument. Pour en parler à Vivre FM, intéresse.
Et c'est pour ça que je trouve intéressant aussi de faire savoir que nos collègues à l'étranger, francophones, ont ce type d'initiative parce que réellement, ça parrainent finalement beaucoup de monde. Les gens sont très contents qu'on puisse leur proposer, montrer du matériel, répondre à des questions, faire des ateliers pratiques d'un petit quart d'heure, leur faire manipuler des choses qu'ils n'auraient pas l'occasion de connaître autrement. Et dans le même temps, voilà, ça contribue également à diffuser le savoir, vulgariser un peu. Et je pense que c'est vraiment très, très utile.
Il serait donc utile, par conséquent, de s'inspirer de l'exemple belge, de l'exemple bruxellois.
Certainement. Bon. Ou à tout le moins, en tout cas, de voir comment mutualiser encore un peu plus nos efforts dans ce domaine.
Alors, à défaut, puisque nous n'organisons pas de tel salon, parlons de ce que vous avez vu lors de ce salon qui s'appelle donc
Brightech. Voilà. Alors, lors du Brightech, bon, quelques nouveautés, assez peu, il faut le dire, même si l'ensemble des distributeurs proposaient bien évidemment tout leur matériel. Je dirais qu'en quelques mots, la grosse nouveauté, c'était l'application KNFB Reader pour iPhone, dont on sera sans doute amené à parler tout à l'heure.
Bonjour. Voilà, avec beaucoup d'applications, j'en suis convaincu. C'est Fernando Pinto da Silva aujourd'hui qui représente le CERTAM sur l'antenne de Vivre FM. Une pause musicale et nous revenons juste après.
La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Le CERTAM est avec nous sur Vivre FM, aujourd'hui représenté par Fernando Pinto da Silva. Et vous nous l'avez promis, et il faudra nous parler du KNFB Reader pour iPhone, c'est bien ça?
Oui, la grosse sensation.
C'est une application.
La grosse sensation au salon de Bruxelles la semaine dernière, donc au Brightech, c'était cette application, donc le KNFB Reader pour iPhone. Alors, qu'est-ce que le KNFB Reader?
J'allais vous poser la question, dites donc.
C'est une application qu'on va installer sur un iPhone, par exemple, et qui va nous permettre de transformer cet iPhone en, alors je grossis un peu les choses, mais en machine à lire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer n'importe quel document sous la caméra de l'iPhone, se mettre à peu près à 30-40 cm en hauteur, prendre une photo à travers cette application et ça va reconnaître le texte qui se trouve sur le document.
Ah, pas mal.
Donc du coup, effectivement, ça va nous permettre, par exemple, de lire le courrier, de lire des prospectus. Certains disent même qu'on pourrait lire des cartes de restaurant. Personnellement, je l'ai pas fait, donc c'est pour ça que j'y mets le conditionnel. Mais en tout cas, elle offre effectivement pas mal de possibilités. Alors certains me diront, à juste titre, que ce type d'application existe déjà dans l'App Store, qu'on peut déjà jouer avec des applications comme TextGrabber, comme Prismo, par exemple, qui fonctionnent pas mal.
Vous voyez que moi, je ne vous l'ai pas dit, ça. Hein.
Non, c'est
vous
vrai.
Vous constatez.
Mais c'est,
hein.
Mais c'est parce que vous êtes indulgent avec moi, Benjamin.
C'est ça, exactement.
Je vous connais. Mais l'avantage du KNFB, c'est qu'elle a été conçue spécifiquement pour les déficients visuels. Elle aide également à l'orientation. Alors, elle a aussi un prix, c'est-à-dire que comme c'est une application dédiée, elle est un peu plus chère que les applications qu'on peut acheter sur l'App Store, puisqu'elle est à 89 €. Mais réellement, aujourd'hui, en matière de prise de photos et de reconnaissance de documents, sincèrement, j'ai pas trouvé mieux. Je pense que pour les possesseurs d'iPhone, elle vaut véritablement la peine. Et d'ailleurs, nous devrions d'ici quelques temps faire une fiche d'évaluation que nous allons publier sur le site internet du CERTAM pour expliquer un peu son fonctionnement, quels sont les avantages, les inconvénients, comme d'habitude, Benjamin.
Vous parlez d'iPhone, ça veut dire que ça n'est pas valable pour tous les smartphones?
Non, on est bien sur donc le système iOS, donc le système d'Apple. On ne parle pas là, effectivement, des systèmes concurrents comme Android ou comme Microsoft, notamment sur les terminaux avec 10 surfaces, effectivement. Donc là, je parle bien des terminaux sous iOS comme les iPhones, absolument, Benjamin.
Mais pour le coup, ce qui est génial, vous le disiez, c'est que, effectivement, nous, on peut être un petit peu empoté, enfin, je dis nous, les aveugles peuvent être un petit peu empoté justement pour photographier, pour scanner un document, c'est vrai, à l'endroit, à l'envers, bien centré, tout ça. Et là, pour le coup, avec ce système KNFB Reader pour iPhone, on y arrive parfaitement.
On a réellement un guidage. Je dirais que là, cette application exploite véritablement les possibilités de l'iPhone en termes d'accéléromètre, en termes de vibration, etc., pour arriver à guider l'utilisateur. C'est ce pourquoi je mets particulièrement en avant cette application, et aussi, encore une fois, parce que c'était, je pense, l'application phare voilà, dont tout le monde parlait la semaine dernière sur le salon Brightech à Bruxelles, effectivement.
Donc, alors ça y est, elle est commercialisable, on peut s'emparer de cette application, hein, à partir du moment moment où on paye 89 euros.
Tout à fait, elle est déjà commercialisée depuis un mois, mais elle a bénéficié d'une grosse mise à jour la veille d'ailleurs du début du salon du Brightech, et pour cause, puisque la société qui a les droits d'exploitation de cette application en Europe, c'est Sensotech, et Sensotech, c'est une entreprise belge qui exposait au salon du Brightech.
Vous allez bientôt en faire une fiche d'évaluation, est-ce à dire par là même que vous serez tout à fait en état d'apprécier complètement et de faire des critiques? Il y en a qui peuvent être faites pour l'instant en regard du début du lancement de cette appli?
De ce que j'en ai vu aujourd'hui, elle fonctionne bien. Après, je pense que pour certains types de documents, ça risque d'être un peu plus complexe. C'est bien ce pourquoi on va faire des tests un peu poussés. Notamment, je pense, sur des documents avec des dimensions un peu exotiques, la chose risque de se révéler un peu plus ardue. Mais je dirais que ce type de documents, beaucoup d'autres applications auraient sans doute tout autant de mal.
C'est ça. Aussi, il y a peut-être des problèmes de présentation de documents. Il peut y avoir, je sais pas, des alinéas, des choses qui font que ça risque d'être un petit peu compliqué. Non, vous avez essayé dans beaucoup de cas de figure ou pas?
Pour l'instant, ce que j'ai fait comme essai me semble plutôt optimal. Elle arrive effectivement même à gérer certains problèmes, ce qu'on appelle de décolonisation, notamment pour tout ce qui est périodique et compagnie. Donc ça semble satisfaisant. Encore une fois, on va pousser les tests, d'autant plus qu'il y a eu une mise à jour la semaine dernière qui apporte certaines corrections qui semblent vraiment intéressantes.
Évidemment, comme d'habitude, ça ne prend pas en compte les lettres manuscrites, les documents manuscrits.
Non, effectivement, là on est bien sûr de l'imprimé et il n'est effectivement pas possible de numériser convenablement quelque chose qui est manuscrit. Oui.
Alors on rappelle le nom de cette application, KNFB Reader pour iPhone.
Pour iPhone, voilà. Mais si on tape juste KNFB dans le moteur de recherche de l'App Store, on tombera nécessairement dessus.
Pas de problème. On n'a pas besoin de taper quiconque. Dominique Lemaître est au courant. Il sait que maintenant, c'est l'heure d'une pause musicale sur Vivre FM. Et on vient juste après pour continuer à parler avec vous de ce fameux salon Brightech que vous avez visité pour nous à Bruxelles.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Aujourd'hui, devant le micro de Vivre FM, Fernando Pinto da Silva qui représente le CERTAM. Alors, quelques mots encore sur le salon Brightech de Bruxelles.
Alors, quelques mots, Benjamin, effectivement. Donc, on a déjà parlé des distributeurs, des fabricants. J'aimerais revenir rapidement sur les actions de la Ligue Braille, puisqu'on a parlé beaucoup du Brightech et avec raison. Dire quand même que cette structure notamment accompagne les déficients visuels qui le souhaitent à se familiariser à ces nouvelles technologies, qu'elle est également en charge en Belgique des financements qui peuvent venir du gouvernement belge, notamment pour acquérir ce type de matériel, et que donc elle a un rôle aussi là de conseil auprès des usagers. Ce qui me semble intéressant à pointer, vous pourrez retrouver un peu plus d'informations sur leur site internet www.braille.be, comme Belgique, tout
comme
simplement.
Belgique, voilà, tout simplement. Vous savez, un dernier mot, s'ils sont en pointe, plutôt les Belges, concernant les financements, concernant justement les nouvelles technologies pour les aveugles, est-ce qu'ils sont nombreux à pouvoir disposer de ces nouvelles technologies? Est-ce qu'ils sont vaillants, j'allais dire? Est-ce qu'ils sont partants?
Alors, nombreux, j'ai pas de statistiques en tête sur cette question en particulier. Maintenant, est-ce qu'ils sont organisés? Oui, je constate même que dans certains cas, ils arrivent à octroyer même des financements pour acheter du matériel standard, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous en France, notamment pour l'acquisition d'un iPhone par exemple. Une personne déficiente visuelle en France, bien souvent, va devoir le prendre en charge sur ses propres financements, puisque ça ne peut pas faire partie des matériels partiellement ou totalement remboursés.
Et les produits standards ne sont pas forcément délivrés qu'à Liège, comme diraient les footballeurs, hein. Le standard de Liège, par exemple. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors moi, je voudrais que nous parlions des partenariats du CERTAM, qui sont de plus en plus nombreux avec d'autres structures à l'international.
Alors effectivement, ça fait partie des choses qu'on avait aussi envie de valoriser lors de cette émission. Parler du fait que, donc, si on participe à certains salons, comme on a déjà pu l'évoquer avec le Brightech, et on y participe activement en co-animant des ateliers, on a aussi la chance de pouvoir rencontrer nos homologues dans des salons où nous, on se déplace pour faire de la veille technologique, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Mmh. Et lors de ces salons, il nous arrive également de nouer des relations intéressantes, notamment avec des structures comme Bookshare, dont je vais vous parler maintenant. Alors Bookshare, c'est une organisation américaine basée en Californie, à Palo Alto. Et c'est une structure qui, au début des années 2000, a décidé de mettre en place un réseau pour mutualiser un certain nombre de livres adaptés dans des formats donc tout à fait consultables par des personnes déficientes visuelles, qu'elles soient aveugles ou malvoyantes, et également dyslexiques. Et nous avons donc Bookshare d'un côté et l'association Valentin 8 de l'autre, conclu un partenariat qui devrait nous permettre, dès le début de ce mois de novembre, de proposer aux usagers de la médiathèque Valentin 8 d'accéder à 175 000, 180 000 titres supplémentaires issus de ces collections, donc majoritairement en anglais, ce qui va nous permettre de, je dirais, compléter les collections qu'on propose aujourd'hui, qui sont quasi exclusivement en français, mais également dans d'autres langues. Il y aura un peu d'espagnol, il y aura d'autres langues également. Et donc tout ça va pouvoir se faire par l'entremise de la médiathèque Valentin 8 et par l'entremise évidemment de son site de téléchargement dont on a déjà parlé ici abondamment, qui est le site EOL, dont je rappelle l'adresse http://eole.avh.so.fr.
Et ça fonctionne bien, ça? Je veux dire, il y a des applications qui effectivement feront que vous pourrez entendre des livres en anglais, en espagnol, en allemand, que sais-je.
Sans aucune espèce de problème, Benjamin.
Avec un bon accent, avec...
Il n'y a pas de souci. La question qui pourra se poser pour les utilisateurs, c'est de savoir s'ils vont vouloir le lire en braille, donc là évidemment il n'y a pas de problème de synthèse, mais les gens qui auront des synthèses vocales sur leur ordinateur ou leur smartphone également vont pouvoir en bénéficier sans aucune espèce de problème, à condition effectivement d'avoir téléchargé préalablement la voix de synthèse qui correspond à la langue, bien sûr.
Mais évidemment, faut pas s'amuser à lire en français un document, enfin un livre en anglais ou en espagnol, ça peut faire des dégâts.
Donc là je donne rendez-vous à nos auditeurs début novembre. On devrait dévoiler les conditions d'accès à ce service supplémentaire qui sera un service qui sera vraisemblablement sur abonnement, dont on communiquera voilà les modalités début novembre sur les sites notamment de l'association Valentin 8.
Ça s'appelle Bookshare, mais sans doute ce sera pas cher, hein.
Ça, on est en cours là de finalisation. Ça sera sans doute pas énorme, mais encore une fois, ça restera un service supplémentaire proposé. Donc les gens ne seront pas obligés de le prendre. Ceux qui sont très contents d'avoir accès à nos collections aujourd'hui en français n'auront pas à payer quelque chose en plus pour continuer à bénéficier de ces services. Ces services en français resteront gratuits.
Bon, je crois qu'on a pratiquement tout dit concernant Bookshare. On va pouvoir continuer à parler peut-être d'autres partenariats tout à l'heure. En tous les cas, c'est vous qui commandez, hein. C'est vous qui êtes aux commandes de cette émission consacrée au CERTAM, Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Une pause musicale sur Vivre FM et c'est promis.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Le CERTAM est avec nous, comme chaque troisième mardi du mois. Le CERTAM représenté par Fernando Pinto da Silva. Alors, je sais que vous êtes impliqué dans le consortium DESI, d'une part, et dans l'IDPF, International Digital Publishing Forum.
Absolument.
Je l'ai bien descendu.
Ouais, pas mal. Alors, ça fait effectivement partie des activités internationales du CERTAM. Ces deux organismes que je vais vous détailler un peu plus sont deux organismes liés à la production et à la distribution de livres numériques. Le premier, le consortium DESI, dont on a déjà abondamment parlé ici ou là, est un consortium qui maintient le format DESI. Alors le format DESI, qu'est-ce que c'est? En trois mots, c'est un format de lecture adapté qui, formellement, à travers son consortium DESI, est né en 1996 chez nos amis suédois. Et ce format permet notamment de structurer du livre audio, du livre au format texte, de synchroniser du livre audio avec du texte pour les populations malvoyantes qui liraient sur écran ou pour les populations dyslexiques, par exemple. Et en quelques mots, c'est un format extrêmement répandu dans les bibliothèques spécialisées comme celle de l'association Valentin 8, par exemple. C'est un format qui donne satisfaction aujourd'hui à beaucoup d'utilisateurs puisqu'il est assez facile d'usage. Il permet de se dépasser, rapidement, voilà, d'un point à un autre de l'ouvrage. Souvent, l'exemple que je donne pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est vous avez un livre de recettes de cuisine. Vous êtes dans votre cuisine, vous voulez cuisiner un dessert. Il est difficile pour vous, si le livre n'est pas structuré, de trouver par exemple la recette de la mousse au chocolat.
C'est sûr.
Si vous devez d'abord lire, passer tous les fichiers de tout le livre, et ça va d'abord passer par les entrées, les poissons, les viandes, les fromages, et vous arrivez seulement
au dessert. Mettre du poisson dans la mousse au chocolat, c'est pas le pire.
C'est pas terrible.
Ah,
donc du coup, c'est justement un des intérêts de ce format, c'est de structurer ces livres pour permettre effectivement, du coup, aux déficients visuels d'aller rapidement chercher par rubrique ce qu'on souhaite exactement, et non pas devoir lire en continu ou chercher un peu en tâtonnant ce qu'on veut trouver.
Alors vous dites que la VFA, enfin le CERTAM, vous faites partie de la VH, mais le CERTAM maintient le système DESI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi verbe maintenir?
En fait, je dis que le consortium DESI maintient ce format, c'est-à-dire qu'il le fait vivre. Il fait vivre les outils qui permettent de fabriquer ce genre de livres. Notamment, on a des logiciels comme OBI, qui permettent d'enregistrer des livres audio en format DESI directement chez soi. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut être donneur de voix, qui veut faire des enregistrements pour des personnes aveugles ou malvoyantes, va pouvoir sur son ordinateur télécharger un logiciel gratuit, donc ce fameux OBI, que nous francisons, donc nous faisons toute la traduction en français à la VH, va pouvoir l'installer et tout simplement, avec un micro-casque de préférence de bonne qualité, bien sûr, enregistrer son livre, faire la structure qui ira bien et le mettre à disposition, notamment de nos bibliothèques spécialisées pour qu'on puisse ensuite le redistribuer. Toute cette maintenance, c'est-à-dire à la fois les évolutions des outils, l'évolution du format lorsqu'on veut rajouter, par exemple, la bonne gestion des notes de bas de page, ce genre de choses, tout ça, c'est le consortium DESI qui le fait au niveau international, et donc le CERTAM participe activement à ces tâches, comme celles que je viens de vous décrire, comme la traduction des outils en français, par exemple.
De même, le CERTAM est impliqué dans une autre structure, le fameux IDPF.
Voilà, alors l'IDPF, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un consortium, une organisation internationale dont font partie Google, Apple, Amazon, Microsoft et bien d'autres.
Donc pas les plus petits.
Pas les plus petits, qui se sont dit à un moment donné, il serait intéressant de faire émerger un format utile pour le livre numérique, et qui se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce qu'il y a déjà des exemples qui existent dans ce domaine? Et ils ont vu effectivement que au niveau international, le consortium DESI avait déjà travaillé sur cette question des structures, etc. Donc il y a eu quelques rapprochements. Le consortium DESI est d'ailleurs devenu membre de cet IDPF. Et il faut savoir d'ailleurs que le secrétaire général du consortium DESI, qui est aveugle, est devenu depuis président de ce consortium international qui maintient le format EPUB dont on est en train de parler, que beaucoup connaissent, qui est le format utilisé notamment pour de la lecture sur tablette, sur smartphone, donc le format que tout le monde utilise, que ce soit les personnes qui n'ont aucune espèce de problème de vue, d'accès à la lecture, comme les personnes qui effectivement ont des difficultés d'accès, y compris les personnes aveugles et malvoyantes.
Et, ça veut dire qu'IDPF englobe le consortium DESI? Non.
Non,
ce sont bien deux structures
différentes,
mais qui vivent côte à côte et parfois même en partenariat.
En partenariat, et pour être même très clair, certains des techniciens du consortium DESI ont travaillé très activement à faire en sorte que l'accessibilité soit prise en compte dans le format EPUB. Ce qui fait que du coup, il y a des passerelles évidentes. Et pour être très clair, la prochaine version du format DESI, puisque tout à l'heure on parlait du fait que le format DESI évoluait, la prochaine version du format DESI est en train de converger avec la prochaine version de l'IDPF. Et tout ce petit monde, y compris donc l'association Valentin Huy avec le CERTAM, va converger vers le format EPUB version 3, puisque c'est un format qui va nous réunir pour le bon accès de tous à la lecture.
Est-ce qu'on peut penser qu'à terme, il y aura un seul format, une bonne fois pour toutes, ou pas, ou c'est pas souhaitable
C'est précisément ce que je viens de dire. On va tous, mainstream, pour parler correctement français, et spécialisé, vont converger vers ce format unique, et tout ça en se faisant de façon intelligente, c'est-à-dire qu'on aura préparé l'ensemble et des outils et de l'accessibilité pour que ce format soit universellement accessible.
Parfait. Fernando Pinto da Silva est avec nous, qui représente le CERTAM. Une pause musicale, une autre.
La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Le CERTAM est avec nous, le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Et Fernando Pinto da Silva, pour nous en parler, ce serait bien que nous évoquions l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Fernando.
Et oui, Benjamin, en droite ligne de ce qu'on était en train de dire sur le consortium des IL et des DPF, il y a aussi un autre champ d'activité au niveau international auquel le CERTAM et la médiathèque Valentin Huy d'ailleurs participent activement. Ce sont toutes ces négociations autour du traité de Marrakech qui a été signé le 28 juin 2013. Alors de quoi s'agit-il ? Ce traité, lorsqu'il rentrera en vigueur, c'est-à-dire lorsqu'il aura été ratifié au moins par 20 pays, va permettre à l'ensemble des organisations à travers le monde de pouvoir échanger des livres de façon transfrontalière sans avoir, je dirais, de problèmes juridiques, puisqu'aujourd'hui, on est dans une zone un peu complexe, à savoir, lorsque deux pays francophones, par exemple, veulent échanger un livre, parce que, mettons, une association suisse n'a pas envie de refaire un livre qui a déjà été adapté en France, il y a aujourd'hui de sérieux problèmes, puisque juridiquement, ce n'est pas faisable, en ce sens où une adaptation doit être produite pour le pays.
Pour le pays, et point barre.
Voilà, exactement. Donc ce traité qui a été signé par plus de 150 pays est actuellement dans un processus de ratification qui va être assez long. En ce sens où, comme je l'indiquais tout à l'heure, il va devoir passer devant chaque parlement. Aujourd'hui, seule l'Inde l'a ratifié formellement le 1er juillet dernier.
Ah oui, il en reste encore 149 pays, hein, j'ai calculé.
Il en faut 19 en réalité pour que le traité rentre en vigueur, parce qu'il en faut 20. Et ensuite, évidemment, pour que les pays puissent s'en bénéficier, il faut évidemment que le pays lui-même les ratifie.
Mais alors, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, enfin, en tous les cas, moi, et peut-être avec moi, certains auditeurs. Vous me dites 150 pays ont signé ce traité de Marrakech, mais malgré tout, il faut qu'il soit ratifié par les parlements. Donc, qui sont ceux qui représentaient les pays qui ont signé ce traité de Marrakech?
En réalité, quand on dit que le traité a été signé, ça veut dire qu'il a été signé sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, que donc ces 150 et quelques pays ont déclaré formellement le fait qu'ils trouvaient que ce traité était intéressant et qu'ils soutenaient l'initiative de ce traité. Pour autant, ce sont les gouvernements...
Il faut que les politiques jugent ça aussi d'un même intérêt.
Il faut que ça soit maintenant chaque parlement national qui entérine ce traité, qui le transpose évidemment dans sa législation. Cela étant, et c'est là où je voulais en venir, nos services, donc que ce soit le CERTAM ou la médiathèque de Valentin Huy, travaillent activement aujourd'hui aux côtés du ministère de la Culture pour commencer à transposer certaines dispositions prévues par ce traité en attendant de pouvoir le faire ratifier devant le Parlement, ce qui prendra encore un peu de temps.
Pour ne pas que vous soyez pris au dépourvu quand le traité, on l'espère en tous les cas, sera ratifié par la France. Est-ce que vous avez une possibilité de faire porter votre voix justement via le ministère de la Culture ou via où c'est pas possible?
On travaille à leur côté justement, c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que le ministère a bien évidemment à l'esprit l'ensemble des dispositions qui vont nous permettre d'échanger ces livres. Donc il sait que c'est quelque chose qui va à un moment donné être transposé dans le droit français. On pense effectivement que ce traité va être ratifié.
Ça, on n'a pas de doute. On sait que ça sera ratifié.
Oui, oui, oui. On pense que ça le sera. On n'a pas, par contre, d'idée du délai. Ça, c'est un fait. En revanche, ce que le ministère et les autres acteurs du livre, notamment, je pense au Syndicat national de l'édition, je pense au Centre national du livre, par exemple, souhaitent faire, c'est d'ores et déjà nous permettre de commencer certains échanges de façon légale avec d'autres structures étrangères et donc imaginer déjà certaines dispositions dans la loi qui nous permettent de faire ces échanges en toute légalité, en attendant évidemment que les choses soient complètement déverrouillées et que le traité soit ratifié chez nous.
On croise les doigts pour que ça se fasse rapidement.
On le souhaite.
Alors justement, puisqu'on parle de rapidité et sans confondre avec précipitation, est-ce qu'il y a quelques petites choses que vous souhaitez nous dire avant de nous quitter?
Alors, quelques petites choses. Donc, vous rappelez tout d'abord notre site internet où vous allez trouver ce type d'informations et bien d'autres. Donc, www.certam-avh.com. On y retrouve bien évidemment les fiches d'évaluation de nos produits, des produits qu'on a pu tester, que ce soit matériel, logiciel. On y trouve aussi justement des comptes rendus, des salons auxquels on a pu participer, toute la veille technologique qu'on fait à l'international, puisque ça fait aussi partie de nos activités, d'aller voir ce qui se passe, ce que font nos collègues, les matériels
qui sortent,
etc. C'est
ça que vous appelez la veille technologique, c'est-à-dire ne pas se laisser dépasser par la chose technologique qui va très vite en ce moment, malgré
tout. Non seulement ne pas se laisser dépasser, mais je dirais même informer aussi le public, essayer d'apporter l'information au public francophone qui ont peut-être un peu plus de mal à la trouver, puisqu'on trouve beaucoup de choses en anglais, mais relativement peu en français. Donc on essaye aussi à notre façon de vulgariser cette information et de l'apporter au plus grand nombre. Vous rappelez également que le CERTAM est un service de l'association Valentin 8, 6 au 5 rue du Roc, 75 007 Paris, que vous pouvez nous contacter si vous n'avez pas de connexion ou de possibilité d'accéder à Internet au 01 44 49 27 27 pour connaître certains détails sur les évaluations que nous avons publiées.
Voilà qui est dit, Fernando Pinto da Silva, et on se donne rendez-vous le mois prochain. Ce sera peut-être pas le mardi qui aurait normalement dû être dédié à votre émission, mais on s'arrangera pour vous recevoir parce qu'on a toujours grand plaisir et grand intérêt à recevoir le CERTAM. Merci Fernando.
Merci Benjamin, et c'est réciproque.